Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Beaucoup de personnes supposent que, selon la Bible, les cieux et la terre ont été créés il y a environ 6000 ans. Certaines Bibles indiquent même une date dans la marge, calculée par l'évêque protestant Usher du comté d'Armagh en Irlande du Nord. Pourtant, nulle part la Bible ne mentionne la date de création des cieux et de la terre. Elle indique tout simplement « au commencement ». La plupart des théologiens rejettent l'authenticité du récit de la Genèse. Ils le classent parmi les légendes. La nouvelle encyclopédie catholique Théo, édition 1989, sur l'origine de l'homme à la page 220, déclare « Les traditions sur les origines de l'humanité, que rapportent les 11 premiers chapitres du livre de la Genèse, sont légendaires. Ce récit, d'une poésie naïve, n'a d'autre prétention que de donner, avec des images concrètes, une réponse aux questions fondamentales « D'où vient l'homme ? L'homme et la femme sont-ils égaux de même espèce ?» Si les affirmations bibliques que nous trouvons dans les 11 premiers chapitres de la Genèse sont une légende, alors rien n'empêche de penser qu'il en est de même pour toute la Bible. Elle ne pourrait dans ce cas être d'inspiration divine. L'apôtre Paul a écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Lorsqu'il déclare que toute écriture est inspirée de Dieu, Paul inclut automatiquement les 11 premiers chapitres de la Genèse. Car si ces 11 premiers chapitres n'étaient que des légendes, comment pourrions-nous croire les autres passages, les nombreuses promesses, ainsi que les paroles de Jésus-Christ qui y sont préservées de l'oubli? Si Dieu a inspiré des fables, des mythes, en d'autres termes des mensonges dans sa parole, comment pourrions-nous encore lui faire confiance et être certains que la résurrection promise n'est pas, elle aussi, une fabulation? La vérité est disséminée dans toute la Bible, et pour la comprendre, il faut rassembler tout ce qui traite d'un même sujet. Beaucoup de théologiens ne l'ont pas compris et ont même accepté la théorie de l'évolution, qui est en contradiction avec la parole de l'Éternel. Les érudits qui rejettent la Bible ne sont pas un phénomène moderne. Dieu les décrit déjà à l'époque d'Ésaïe. C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. La théorie de l'évolution ne fait-elle pas de Dieu un imposteur? Pourquoi le rendre capable de créer la première étincelle de vie et d'être incapable de créer des êtres physiques dont toutes les parties sont parfaites dans leur forme et leur fonction, sans parler des végétaux? Plusieurs religions chrétiennes sont évolutionnistes. Elles rejettent le récit de la Genèse, puisqu'aucun témoin oculaire ne peut raconter ce qui s'y passa. Pourtant, il y avait un témoin actif. C'était la parole Jésus-Christ. Jean l'affirme dans son évangile en écrivant « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. » À la question des pharisiens, Jésus répond « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme ?» Au sujet des temps de la fin, il dit à ses disciples « Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé. » Le Christ, ainsi que les apôtres Pierre, Paul, Jean et Jude, mentionnent Adam, Abel, Caïn, sans oublier Noé. Si ces personnages étaient mythiques, nous ne pourrions plus avoir la moindre confiance dans les paroles du Christ et dans les écrits de ses apôtres. C'est aussi simple que cela. La parole de Dieu est la vérité, elle ne peut pas être une légende et la vérité à la fois. C'est l'une ou l'autre. Le Christ s'est identifié comme étant la vérité. Il nous a promis l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il a confirmé que la parole de son Père était la vérité. Pourquoi aurait-il ajouté des fables à cette vérité? Cela ne tient pas debout. La Bible avait prédit que l'on rejetterait le récit de la création, et donc indirectement la venue de la théorie de l'évolution. Voyons ce qu'en écrit Ésaïe. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin, mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel, et ils ne voient point le travail de ses mains. Si l'homme était attentif à tout ce qui l'entoure, qui est l'œuvre de l'Éternel, il en prendrait soin et ne la polluerait pas avec la désinvolture que l'on connaît. Dieu est le potier, l'homme est le vase, l'ouvrage du potier. Ésaïe s'exclame, « Quelle perversité est la vôtre ! Le potier, le Créateur, doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage, l'homme, dise de l'ouvrier, de Dieu qui l'a créé, « Il ne m'a point fait. » Pour que le vase dise au potier, « Il n'a point d'intelligence. » Nous retrouvons ici la théorie de l'évolution qui affirme que la vie provient de matières inorganiques. Croire que Dieu n'est l'auteur que de la première étincelle de vie et n'a pas créé toutes les formes de vie complexes, c'est faire de lui un Dieu limité, un Dieu sans grande intelligence, ce ne serait donc pas un Dieu tout-puissant. La Bible, d'inspiration divine, a été écrite pour l'homme. Elle est notre manuel de vie. Dieu y donne toutes les indications nécessaires à l'homme pour naître un jour dans sa famille, mais il ne révèle pas tout ce qui s'est passé avant la création du premier couple, Adam et Ève. Trop souvent, les gens interprètent la parole de Dieu, lui refusant le soin de s'interpréter elle-même. Voilà pourquoi tant de croyances éloignées de la vérité abondent. Si toutes les religions chrétiennes se laissaient guider par la Bible sans l'interpréter, elles ne seraient pas divisées. Elles se retrouveraient toutes sous une même dénomination mentionnée à 12 reprises dans le Nouveau Testament, l'Église de Dieu, qui est la seule bâtie par le Christ. Malgré ses nombreuses persécutions, elle n'a jamais cessé d'exister, mais elle est toujours restée modeste. La Genèse, qui nous livre le récit de la création d'Adam, déclare « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Cet événement eut lieu après la création des anges, puisque le livre de Job nous informe qu'ils poussèrent des cris de joie au moment où Dieu créa la terre. Le premier verset de la Genèse résume tout un épisode de l'histoire de l'univers. Un laps de temps d'une longueur indéterminée sépare ce verset du suivant, des millions, voire peut-être des milliards d'années, selon les calculs de datation radiométrique. Les termes de ce récit, au commencement, ne dévoilent aucune mesure de temps. L'âge de l'univers est sans la moindre importance pour la vie spirituelle du chrétien. Poursuivons ce récit. Dieu créa. Créer, c'est tirer du néant ce qui n'existait pas. Dieu n'est donc pas un Dieu évolutionniste, mais bien créateur. À partir de quoi les cieux et la terre furent-ils créés? Paul répond à cette question. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Le livre de la Genèse poursuit le récit de la création. La terre était informée vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Sa surface était en ruine, plongé dans les ténèbres, noyé sous un abîme d'eau, car un grand désastre l'avait frappé. Informe et vide sont traduits de l'hébreu « tohu et bohu ». Dieu n'avait pas créé la terre dans cet état. Ésaïe écrit « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte. » Dans ce passage, le mot « déserte » est lui aussi traduit de l'hébreu « tohu », signifiant ce qui est inculte, désertique, informe, dans la confusion, dans la désolation. Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous l'expliquer dans une émission précédente, la terre était devenue informe et vide. Dieu dut en renouveler la surface, ce qu'il fit en 6 jours de 24 heures. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Si vous voulez recevoir notre documentation sur la recréation, il vous suffit de la demander, elle vous sera expédiée gratuitement. La Bible ne dévoile pas la date de la création des cieux et de la terre. Elle ne précise pas non plus combien de temps elle resta informe et vide entre la destruction de sa surface et le renouvellement de celle-ci. Elle précise cependant que Dieu créa les poissons, les oiseaux, le bétail, les reptiles et les animaux terrestres pour qu'ils se reproduisent selon leur espèce. Aucune évolution n'est prévue dans leur reproduction. Pour la théorie de l'évolution, notre ancêtre est une amibe. Pour la Bible, notre ancêtre est Adam. La théorie de l'évolution affirme que notre ancêtre est le plus imparfait organisme vivant qui ait jamais existé et qu'il s'est amélioré au fil du temps. Alors que la Bible révèle que notre premier ancêtre, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, était physiquement parfait. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. À notre époque, la plupart des gens instruits acceptent la théorie de l'évolution comme un fait établi. On passe pour ignorant, rustaud ou naïf si l'on croit ce que Dieu révèle dans sa parole sur l'origine de la vie sur la terre. Si Dieu déclare catégoriquement qu'il a créé toutes les formes de vie avec leur complexité et leur harmonie en 6 jours de 24 heures, c'est qu'il l'a effectivement accompli. L'apôtre Paul nous dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Et la Genèse déclare, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Si Adam est le premier homme, et si les nombreuses chronologies bibliques font remonter sa création à près de 6 000 ans, qu'en est-il de tous ces êtres préhistoriques dont on découvre les traces un peu partout, comme l'Australopithèque, l'Homo sapiens, l'homme de Néandertal, etc. C'est ce que nous verrons bientôt.